Bien, bien, bien. Bonjour, mes machiavéliques hirondelles de Compton en Estrie. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis présent pour vous offrir mes prédictions de l'UFC Vegas 36 Bronson contre Till, aussi étant connu comme la carte où Jourdain puis Barrios se battent. Et puis, honnêtement, je ne vais pas chialer sur cette carte-là parce que c'était vraiment supposé être une bonne carte. Il y avait, je pense, Gustafsson contre Paul Craig. Il y avait plusieurs combats très intéressants sur cette carte-là. Et puis, ben, malheureusement, à cause qu'elle a été déplacée de Londres à Vegas à comme un mois, 3 semaines, un mois de préavis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu. Qui n'ont pas été en mesure d'obtenir leur visa américain à temps pour venir se battre, dont l'adversaire initial de Charles Jourdain, Lerone Murphy, dans ce qui aurait été comme de loin un des meilleurs combats de la soirée, sinon pas le meilleur combat de la soirée selon moi. Mais bref, c'est pas ça qu'on va voir pour l'instant. L'UFC a réussi à trouver des remplacements pour beaucoup de gens aussi. Donc, tu sais, la carte est quand même correct dans les circonstances. C'est pas rien d'incroyable, mais comme j'ai dit, c'est vraiment supposé être une bonne carte. Donc, je vais pas chialer, dire, c'est une shit card. Des fois, je le fais quand l'UFC, comme on n'a même pas l'air de se forcer de nous offrir de quoi de bon. Là, ils ont essayé de nous offrir de quoi de bon. Malheureusement, il y a eu plein de cancellations. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est la chose qui arrive. Et puis, ben, je vais vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour tous les combats. Mais ce qu'on va faire de différent cette fois-ci, parce qu'on va commencer par le bas, puis on va monter vers le haut. On va parler du premier combat en premier, puis du dernier combat, le main event, en dernier. Puis la raison pourquoi je fais ça, parce que les combats numéro 2 et 3 sur la carte sont les combats de Barrios et Jourdain. Puis je suis pas cave, je le sais que c'est principalement pour ça que vous allez écouter. Puis tu sais, je vais pas parler de tout de Alex Morono contre David Zawada pendant 15 minutes, puis vous faire attendre une demi-heure avant de vous parler des deux seuls combats qui vous intéressent à la carte. Je suis pas un gars de même, je veux pas milk le view time à ce point-là, j'en ai rien à foutre, on va straight to the point. Donc, on va commencer avec le premier combat de la soirée. Sur les prelims, Jonathan Martinez, Marcelo Rojo, un visage connu qui fera ses débuts à 135 livres, qui est vraiment sa division. Et puis, il affronte Jonathan Martinez, et puis honnêtement, j'ai été vraiment surpris que Jonathan Martinez perde. C'est le genre de gars, on dirait que je ne le trustais pas vraiment, puis il gagnait, puis il gagnait, puis il gagnait. Puis à un moment donné, je me disais, hey, je pense que je le truste à cette heure parce que tu sais, il gagne genre, la majorité de ses combats, puis il a un bon Muay Thai, un bon clinch game. Le gars, il est créatif, il est capable de sortir des attaques un peu de n'importe où, puis qu'il réussit à surprendre ses adversaires, surtout des coups de genoux, soit dans le clinch ou en sortant du clinch. Et puis, c'est ça, je trouvais qu'il est de mieux en mieux capable d'éviter de se retrouver sur son dos trop longtemps et puis ces choses-là. Donc, bon petit combattant. Puis il arrive contre Davy Grant, qui est le gars que je peux jamais pick un fight de Davy Grant comme faux, là, basically. Puis j'ai dit, ah, je pense que je trosse Martinez à cette heure. Puis il s'est fait knocker par Davy Grant. Évidemment que ça allait arriver. Puis on dirait que ça rend cette prédiction-là plus compliquée que ça devrait l'être. Parce que pour vrai, Jonathan Martinez, en dehors de ce genre de knockout-là, ce bizarre-là, est un gars qui est excessivement tough et qui n'a pas tendance à vraiment se faire finir, puis qui a même tendance des fois à commencer peut-être un peu slow puis à prendre du poil de la bête plus le combat avance. Chose que Marcelo Rojo ne fait absolument pas. Marcelo Rojo, de un, est très bon, c'est un bon boxeur, mais c'est presque uniquement un boxeur, donc ça limite un peu ses attaques. C'est pas un grand kicker, c'est pas un gars qui va essayer vraiment de grapple plus qu'il faut non plus. Donc, c'est pas mal à quoi t'attendre avec Marcelo Rojo. C'est un gars qui travaille derrière son jab, sa technique est quand même belle, mais il fait pas mal toujours les deux, trois mêmes choses, ce qui fait qu'il, des fois, même souvent, je vous dirais, il y a du succès en début de combat, mais plus le combat avance, plus c'est facile pour son adversaire de le figure out un peu. Puis honnêtement, il y a beaucoup de third round knockout loss sur sa fiche. Puis ça me porte à croire que je pense pas qu'il va arriver là puis spark Jonathan Martinez avec de quoi de surprenant au premier round, qui est la manière dont il finit la majorité de ses adversaires. Puis honnêtement, si le combat est pour durer, je pense que Jonathan Martinez a des très bonnes chances de prendre le dessus dans ce combat-là. Puis puisque Rowe semble être un gars qui se fait finir au troisième round, je vais y aller avec un TKO au troisième round ici pour Jonathan Martinez. Ça nous mène à un combat chez les middleweight. Dalcha Lunjambula, Marc-André Barrios. Et puis tabarnouche, man. C'est un bon combat pour Marc-André Barrios. C'est vraiment là, excellent combat pour Marc-André Barrios. Je pense que je pourrais même pas faire mon gag de genre, oh, je vais piquer contre Barrios parce que dans le fond, à chaque fois que je piquais Barrios, il perdait dans ses premiers combats. Fait que j'ai juste décidé de piquer contre lui, même si je pensais qu'il allait gagner. Puis il s'est mis à gagner. Mais là, écoute, je peux pas faire la joke de genre, hey, je vais piquer Dalcha ici parce qu'honnêtement, écoute, Le gars, c'est un top control grinder peu actif. Autant debout qu'au sol. Il est juste très gros et explosif. Je sais pas c'est quoi là. Je vais aller direct là sur ESPN, là, voir les... la différence de reach et de grandeur. Je pense que Barrio, c'est pas un gars qui est grand. Dalcha, c'est vraiment une petite boule de muscle super explosive qui veut. Ouais, c'est ça, 5 et 8. Il me semblait tout, c'est pas un grand combattant du tout. Quand même plus de reach que Barrio, même s'il donne toute cette grandeur-là à Barrio, mais je pense pas que ça va être un facteur dans ce combat-là, de loin. Parce que, écoute, Dalcha est dangereux au premier round, mais dangereux dans le sens que le gars, il, c'est un peu Yanine-ish, mais pas actif. Le gars, il a une main droite, puis le gars, et il a un esti de gros takedown de lutte ou de judo dans le clinch. C'est un judoka, le gars, fait qu'il peut te lancer un peu dans le clinch. Puis quand il est sur le top, comme j'ai dit, il est vraiment peu actif. Puis Marc-André Barrio, non seulement était immensément tough, on l'a jamais vu se faire finir, mais encore moins, on l'a jamais vu même se faire ébranler plus qu'il faut. Fait que je pense pas qu'il va se faire surprendre par genre les gros punchs explosifs, mais quand même lent et prévisible de Dalcha. Ça se peut qu'il se fasse takedown au premier round, mais Barrio, il accepte aucune position, jamais. C'est vraiment ça, sa gimmick, lui. C'est de travailler fort, de continuer d'aller de l'avant, d'essayer de lancer ses mains, d'être puissant, mais surtout d'être un troc. C'est un adversaire qui est tellement dur à affronter, Marc-André Barrio, à cause de son aspect physique, là, vraiment, plus que tout. C'est un gars qui wear sur ses adversaires. Étrangement, il a gaz out la majorité des gars contre qui il s'est battu. Puis même des gars qui n'ont pas tendance à gas out dans leur combat se sont retrouvés au troisième round, fatigués contre Marc-André Barrio qui continuait d'avancer puis qui commençait d'avoir de plus en plus de succès avec ses mains puis avec ses choses au troisième round de ses combats. Je vois pas comment Barrio gagne pas ce combat-là, honnêtement. Parce que l'affaire qu'il faut vraiment préciser, c'est que oui, Barrio a tendance à gas out ses adversaires, même quand il y a du cardio. Dalcha a un round et quart de cardio. C'est juste ça. Donc, je pense que c'est un combat que Marc-André Barrio va gagner assez facilement. Je dirais probablement par TKO au 2e ou 3e round. Je vais y aller avec un 3e round ici, là, honnêtement, en faveur de Marc-André Barrio parce que Dalcha va tellement être gassante. C'est un gars qui gassante. Fait que je vois pas comment Barrio, qui est juste tellement actif, qui force ses adversaires à travailler, peu importe son haut, que ce soit debout, il est actif avec ses mains. C'est pas un gars qui prend vraiment son temps là, pour faire les choses. Avance, met du volume sur son adversaire. Même chose quand il se fait takedown, donc il est dans le clinch, on le sait, il est absolument redoutable avec ses uppercuts, avec son dirty boxing en général. Au sol, quand il se fait takedown, jamais accepte aucune position. Donc, il va tellement faire travailler son adversaire qu'il va le faire gasser rapidement. Puis, d'après moi, ça va faire que l'autre va tellement manquer de jus et qu'il va être facile à TKO. Là, comme un peu, il a fait comme contre Abou Azatar, mais un peu plus rapidement dans le combat. Donc, Barrio TKO, 3e round. Ensuite, Charles Jourdain, Julian Erosa. Écoute, en termes de remplacement, c'est pas mauvais du tout parce que c'est encore un combat assez difficile pour Charles ici, on s'entend. Moins difficile que le chum, Lerone Murphy. Là. Lerone Murphy, c'est un des top prospects dans la division. Ça allait être de loin, le meilleur adversaire que Charles Jourdain avait affronté. Julian Erosa, je ne sais pas s'il l'est. Là. Je pense pas que c'est un André Fili, honnêtement. Je pense qu'il est pas mal le gars que qui a ce titre-là à date. Écoute, Erosa, l'affaire avec lui, puis ce qui rend le combat vraiment intéressant, c'est que comme Charles, il prend du poil de la bête plus le combat avance. Et Charles Jourdain, là, dans ses derniers combats, a vraiment démontré qu'au 3e round, il était à son meilleur. Peu importe comment le combat allait avant, il sortait avec des 3e rounds de fou. Il y a 18 coulibards dans le combat qui a fini en draw, qui est un combat qu'il fallait qu'il fasse de quoi, sinon il perdait. Puis il réussit à sortir le 18 pour aller chercher le draw dans ce combat-là. Même affaire contre Marcelo Rouault, que c'est un combat qui gagnait, mais que c'est un bon combat back and forth. Puis au 3e round, il a turn up a notch, puis absolument complètement dominé son adversaire, puis réussi à aller chercher le finish. Même, tu sais, dans son premier combat UFC contre Desmond Green, pas mal tous ses combats. Au 3e round, il a vraiment eu un gros regain d'énergie. Puis Charles a tendance à avoir des bons premiers rounds aussi. C'est peut-être des fois au 2e qui a un peu moins de succès. L'affaire, c'est que Julian Erosa aussi, c'est ça l'affaire. Son plus gros problème, c'est de se faire spark au premier round. C'est là où il y a le plus de difficultés. On dirait que ça lui prend un peu de moment pour se mettre dans le combat. Puis quand il est dans son combat, il bouge quand même bien sa tête. C'est un gars qui est très, très grand pour la division. Là, mesure 6'1 ou 6'2. Il a 74,5 pouces de reach, contrairement à 69 pour Charles, qui n'est même pas un gars qui n'a pas beaucoup de reach dans cette division-là. On s'entend, Charles aussi est fait genre plus grand et long que petit et large dans cette division-là. Mais là, il affronte un énorme 145 livres en termes de grandeur puis de reach. Puis avec ça, Rosa est comme capable de travailler à l'entour du fait qu'il n'a pas le meilleur des mentons, mais ça y prend du temps à se mettre dans son combat. Donc Charles va vraiment avoir une très bonne window d'opportunité pour finir ce combat-là au premier round, pour essayer d'être surprenant, d'être Air Jourdain, le gars qui sort un esti d'affaires out of nowhere, puis qui cut son adversaire, puis qui réussit, tu sais, à le finir de cette façon-là. Je pense que si ça arrive pas, on va nécessairement avoir le droit à un esti de bonne guerre back and forth, parce que c'est Julian Erosa, si tu décides de brawler avec lui, va happily brawler avec toi. Il est bon, il est le fun à voir, il a des bons punches, des belles combinaisons. Charles, il va falloir qu'il fasse attention au choke dans ce combat-là, honnêtement, parce que Erosa, c'est vraiment plus un striker, mais c'est quelqu'un qui à cause de ses longs astis de membres, dans le clinch, il est capable d'aller chercher des anacondas, des darts, des guillotines bizarres. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, vu que le gars est tellement grand, il est capable de chercher ces affaires-là debout, puis après amener le combo au sol avec ça. Fait que juste un petit détail à checker, que je suis pas mal sûr que c'est Charles et son camp ont déjà tout checké ça. Mais honnêtement, je pense que je vais y aller avec Jourdain par décision aussi. Non seulement parce que j'ai envie de voir une guerre. C'est le combat qui a le potentiel d'être le plus excitant sur la carte, selon moi. Le Ron Murphy contre Charles, je pense que ça aurait été plus technique, tu sais, que ce combat-là qui a vraiment la chance d'être un all-out brawl, une petite bonne guerre back and forth. Puis on dirait que c'est ça que j'ai envie de voir, honnêtement, dans ce combat-là. Mais comme j'ai dit, Charles, très bonne opportunité au premier round parce que Rosa a tendance à être cold en début de combat, des fois à se faire pogner là. Je pense que plus le combat va avancer, plus que Rosa va être dedans. Mais vu que Charles a tellement tendance à step up un notch au troisième round, dans mon analyse, j'ai de la misère à pas voir Charles gagner le premier parce que c'est un gars qui commence rapidement, contrairement à Rosa, puis gagner le troisième parce que c'est pas mal son round. Puis j'ai jamais vraiment vu quelqu'un avoir beaucoup de succès contre lui au troisième round à date. Donc, je vais avoir 2-1 Jourdain dans les rounds-ci, puis c'est pour ça que je pense. Puis je te dis pas qu'il va nécessairement perdre le deuxième, mais je suis pas mal assez convaincu qu'il va gagner le 1 puis le 3, que si ça va à décision, automatiquement, il va gagner le combat. Donc, pour cette raison-là, Charles Jourdain, par décision, face à Julian Erosa, probablement, comme j'ai dit, le combat qui a le plus de potentiel d'être vraiment un all-out war, le back and forth, super intéressante pendant trois rondes. Ça, c'est si Julian Erosa se fait pas passer le classique KO au premier round parce qu'il était pas prêt. Ensuite, Jack Shore, Ludwig Cholignan. Je sais pas trop c'est qui Ludwig Cholignan. J'espère qu'il est prêt en esti parce que Jack Shore, c'est un monstre. Je pense que je peux quasiment dire ça. C'est le English GSP. Là. Le gars a vraiment une belle game complète qui a vraiment plus tendance à mener vers sa lutte, là, je vous dirais en général, mais bien capable d'échanger debout avec ses adversaires, reste technique, reste calme, travaille derrière son jab. Est un combattant qui va pas faire exprès de se foutre dans le trouble, qui va pas chercher à aller faire une guerre contre personne, puis il reste très technique, excellent au sol, très bon backtaker, très stratégique là aussi, puis il a un excellent rear naked choke, puis honnêtement, je comprends pas comment il pourrait perdre ce combat-là contre Ludwig Cholignan, qui était un gars qui était à tough, je pense, puis qui, basically, si tu regardes sa fiche, à chaque fois qu'il a gagné ou presque dans sa vie, c'était contre un gars qui était 0-0, puis les seules fois qu'il a battu des gars qui étaient pas 0-0, ça a été genre des split decisions ou des draw, des majority decisions, des affaires comme ça, fait honnêtement, je pense que Ludwig Cholignan, ça va être drôle de le voir dans l'UFC. Je pense qu'il peut pas être pas mauvais ni rien, mais c'est un gros test là, pour commencer sa carrière. Définitivement, je pense pas que c'est comme ça que tu veux rentrer dans l'UFC en te faisant péter la gueule par Jack Shore, mais c'est sûrement ça qui va arriver. Donc, Shore, soumission, Renegade Joke, deuxième round. Ça nous mène à un combat entre Molly McCann et Jeon Kim. Ça, c'est le main event des prelims. Après ça, on tombe à la main card. Écoute, c'est pas compliqué, ces deux filles-là sont bizarres, man. Sont bizarres. Molly McCann a deux types de combats. Il y a deux types de combats de Molly McCann. Il y a le combat de Molly McCann où elle domine âprement son adversaire et elle n'a aucun problème. Puis il y a le combat de Molly McCann où elle se fait âprement dominer par son adversaire et il n'y a aucun problème pour son adversaire. Donc, il n'y a comme pas vraiment de milieu dans les combats de Molly McCann. Puis Ji-Hyun Kim, c'est le contraire. Je ne l'ai jamais vu dans un combat pas serré. C'est soit qu'elle gagne par split decision, elle perd par split decision, ou c'est un combat serré back and forth. Le pouls qui arrive de quoi, puis elle réussit à trouver un finish, chose qui n'arrive pas vraiment au niveau de l'UFC, je vous dirais, pour elle. Mais bref, ce qui rend ça difficile à juger un peu, l'affaire, c'est tu sais, Ji-Hyun Kim, t'as même pas vraiment besoin d'analyser son style. Tu le sais comment elle se bat. Elle est coréenne, puis elle se bat de façon très coréenne. Elle est grande pour la division à 5 et 7. Elle a un long reach, puis elle fait juste aller de l'avant, puis lancer beaucoup, beaucoup de volume. Molly McCann est définitivement celle qui va essayer d'aller chercher des takedowns plus dans ce combat-là, mais c'est là que ça make it or break it pour Molly McCann. Chaque fois qu'elle a réussi à take down ses adversaires et qu'elle avait un avantage de grappling sur ses adversaires, elle a gagné le combat, soit en out-grappling son adversaire ou en servant de la menace du takedown pour l'amener des meilleurs strikes. À seconde près, qui n'était pas la meilleure grappler dans ce combat-là, le combat finissait automatiquement où elle se retrouvait sur son dos pour des trop longues périodes de temps puis elle perdait ces combats-là. Puis c'est pour ça que c'est dur à juger parce que Ji-Hyun Kim, c'est pas la fille que tu l'as. On l'a vu courir après du monde puis lancer un paquet de coups de poing pendant. Genre, puis être la fille la plus counter-rap du monde ou presque. Bien que Molly McCann est bonne deuxième là, à cet effet-là, elle est tellement prévisible dans ses strikes que c'est facile la counter, surtout si tu vas en volume. Chose que Ji-Hyun Kim va faire. Mais c'est ça, on dirait que j'ai jamais vu Ji-Hyun Kim perdre de la manière dont Molly McCann va essayer de gagner. Mais j'ai jamais vraiment vu Ji-Hyun Kim gagner de cette façon-là non plus. Et l'inverse s'applique. Donc, c'est un combat qui est assez la confusion selon moi. Je pense que je vais aller avec Ji-Hyun Kim juste parce qu'elle va lancer 315 millions de coups de poing. Puis je dis, je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait un finish là-dedans. Fait que même si ça se fait takedown un peu, si elle a 313 strikes dans la face de l'autre avant ça, elle va probablement gagner le round. Surtout que les juges commencent un peu là, à juger différemment les combats. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de combats où c'est vraiment 50% du temps, quelqu'un qui a le succès debout, l'autre 50% du temps, quelqu'un qui a le succès dans le grappling, c'est souvent la personne qui a eu le succès debout la moitié du temps qui va gagner les combats. Les combats sont de plus en plus jugés comme ça. Fait qu'en tout cas, Ji-Hyun Kim ici par décision. Et puis ça nous mène à Paddy Pimblett. Hey, wow, les débuts très attendus de Paddy Pimblett qui essaie vraiment de se faire des amis sur Twitter, puis partout là, en général. Et il affronte Luigi Vendramini. Qui ne devrait pas être une très grosse menace pour lui, là, je vous le dis. C'est un combat qui est assez bien booké ici. On comprend clairement qui l'UFC veut essayer de pousser. Paddy Pimblett, il est drôle. Il me fait rire comme fighter parce que c'est quelqu'un qui arrive. Puis quand tu le regardes, de la manière qu'il bouge, de la manière qu'il fait les choses, t'es genre, ouais. Ce gars-là, il a l'air de vouloir striker. T'sais. Il a l'air de vouloir faire ça. Puis lui aussi, il a l'air convaincu qu'il veut striker dans ses combats. Puis là, il essaye, puis ça marche moindrement. Puis là, il se met à lutter. Puis ouf, c'est là qu'il a tout son succès. Tu te rends compte que le gars, c'est un bien meilleur lutteur puis top control grappler que striker. Comme un peu Leon Edwards, sauf que Leon Edwards est vraiment un bon striker aussi. Contrairement à Paddy Pimblett, que le pauvre dude, il mesure 5 et 10, il a un bon reach là, pour cette division-là, puis souvent, il est incapable de gérer la distance entre lui et son adversaire. Il est toujours en train de se punch into the clinch, mais Luigi Vendramini, honnêtement, c'est pas un mauvais grappler, mais c'est un gars qui est pas une super takedown defense, puis qui risque de passer comme 8, 9, 10 minutes de ce combat-là sur son dos, là, si tout va bien pour Pimblett. Donc, j'ai pas vraiment d'avenue à la victoire pour lui ici dans mon analyse. Donc, j'ai Pimblett par décision. Ça nous mène à Modestus Bukauskas face à Khalil Roundtree. Et j'ai Modestus Bukauskas parce que Khalil Roundtree trouve un moyen de perdre à tous ses combats, que ce soit en se faisant takedown brutalement ou que ce soit en se faisant complètement outstriker parce qu'il est inactif ou peu importe. Khalil Roundtree, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai vu gagner. Puis son dernier combat contre Marcin Prachnio, c'est complètement fait outstriker. Puis Bukauskas est quand même capable de faire ça, pourrait même aller chercher des takedowns, ça serait la voie facile dans ce combat-là. La seule affaire qui m'inquiète, c'est qu'il a tendance, quand il kick, à vraiment pas monter sa main pour se protéger, puis à se retrouver genre le menton bien haut, en déséquilibre, en lançant un kick, puis Khalil Roundtree peut te knocker avec un punch. S'il y a une chose qu'il peut encore faire, c'est ça. Donc, c'est même pas un pic confiant. Puis ça, c'est juste pour vous dire à quel point j'ai pas beaucoup confiance en Bukauskas en général, parce que n'importe quel combattant, c'est-à-dire en qui j'ai moindrement confiance en ce moment, je le piquerais là, facilement pour battre Khalil Round 3. Je pique quand même Bukauskas, mais c'est pas le pic le plus confiant que j'aurais fait aujourd'hui. J'y vais par décision. Ensuite, Alex Morono, David Zawada. Tu sais, quand tu parles du mid-level welterweight fighting, c'est pas mal ça. Alex Morono, on le sait ce qu'il fait. Il a l'air beaucoup meilleur qu'il était dans son dernier combat parce qu'il a knocké Cowboy Cerrone. Puis c'est comme pas quelque chose qui arrive souvent qu'Alex Morono qui knock des gens, honnêtement. C'est juste pas full son style. Et puis, David Zawada, pour sa part, est un combattant qui est bon, qui va être plus technique, selon moi, sans aucun doute, le plus technique qu'Alex Morono, autant debout qu'au sol, mais je sais pas, il y a de quoi dans le style d'Alex Morono qui fait juste que dans ce genre de combat-là, il gagne juste par sa physicalité, un peu à la Marc-André Barrio, quand on y pense. Tu sais, tu vas avoir Zawada qui va facilement se mettre sur son basic dans ce combat-là, puis essayer de garder sa distance, lander un beau jab clean, lander des beaux kicks clean, il va avoir un peu de reach aussi sur Morono, donc va essayer de le garder à bay avec son footwork, et puis ça va tout bien paraître, ça va être beau, ça va être clean techniquement, mais Alex Morono, bien que c'est pas un athlète spectaculaire, là, loin de là, c'est probablement un des combattants les moins athlétiques de la division, puis c'est pas quelqu'un qui est vraiment puissant non plus, mais il a pas peur, il avance, il met des combinaisons ensemble, il lance plus de 5 punches significants, 5 strikes significantes par minute, donc c'est juste quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va s'en sacrer de toutes ces choses-là, puis qui va essayer de mettre du volume sur son adversaire, puis au niveau du sol, tu sais, Zawada, une très bonne garde, est un, je pense, pas mal meilleur grappler que striker, bien qu'il n'y a pas full de manière d'amener le combo au sol. Fait que des fois, il finit juste par pull guard, puis des affaires comme ça. Puis oui, il y a une bonne garde, mais Morono est quand même un... C'est un gars qui connaît ses limites, vraiment. Puis ça, il faut apprécier ça, parce que souvent, les fighters sont un peu delusional à cet effet-là. Mais Morono, il connaît ses limites, ce qui fait qu'il ne va pas essayer de faire de quoi de cave au sol. Il va vraiment... garder ça, ce bread and butter. S'il a se retrouver dans la garde de son adversaire, tu sais, il va garder ça, bread and butter, va essayer de pas se mettre dans le trou, pas mettre ses bras à des places fucked up pour se faire passer un armbar, un triangle, quelque chose comme ça, puis vraiment essayer de travailler là, soit pour se relever debout, soit pour lender du dommage sur son adversaire, mais honnêtement, je sais pas, juste l'impression que c'est Morono qui va gagner ce combat-là, parce qu'il va aller de l'avant, puis il va mettre des combinaisons ensemble, puis Zawada essaye d'être trop beau puis trop technique, puis ça fait que c'est beau quand ça marche, mais ça marche pas autant souvent que Morono qui, ça va être tout à son avantage aussi d'essayer de rendre ça dirty, d'essayer de clincher le plus possible, de lander au corps sur son adversaire pour limiter son mouvement, peut-être des leg kicks, des calf kicks, ça pourrait être bien aussi. Fait que je pense qu'il va faire toutes ces affaires-là, va probablement gagner par décision. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Thomas Pinal, Sergei Spivak, et puis tabarnouche, si Sergei Spivak met la main sur Thomas Pinal puis il l'amène au sol, ça me surprendrait pas qu'il l'out-grapple dans ce combat-là. L'affaire, c'est qu'on l'a vu la majorité, ben pas la majorité du temps, mais souvent quand Sergei Spivak perd, c'est parce qu'il se fait complètement allumer au premier round. Puis tu le sais que Thomas Pinal est capable de faire ça. Puis c'est un énorme heavyweight, 6 et 5. Il y a beaucoup de reach. Autant que Spivak, là, je suis surpris de voir ça quand même, mais il est excessivement actif, lance du volume. C'est pas le heavyweight qui va rester à at-range puis juste essayer de lander des grosses bombes. C'est quand même du bon footwork. Il est mobile pour un gars de 6 et 5. Il lance assez rapidement aussi pour un gars de cette grosseur-là. Puis il n'a pas peur de lancer en combinaison puis d'essayer de te faire mal avec son troisième punch plutôt que juste essayer de te swinguer une grosse main droite ou un gros crochet ou quelque chose qui fait mal puis qui a beaucoup d'impact mais que tu vois venir facilement. Donc, je pense qu'à Spinal, autant c'est un combat qui est assez dangereux s'il dure, il y a exactement le profil de fighter qui ont tendance à knocker Sergei Spivak au premier round. Donc, c'est exactement ça mon pick dans ce combat-là. Ça va être Thomas Spinal par KO au first. Ça nous mène au main event. Darren Till, Derek Brunson. Puis honnêtement, je pensais que j'allais avoir vraiment plus de misère à pick ce combat-là que j'en ai. Puis je pense que Derek Brunson va gagner assez aisément là, sur Darren Till. Surtout la nouvelle version de Derek Brunson, Sanford MMA, qui a des mains, qui est de plus en plus capable de travailler alentour. Parce qu'on s'entend, il est tough, Derek Brunson. C'est pas le combattant qui a le meilleur menton, par exemple, mais... Je pense que les KO, là, ce qu'il y a eu, c'est vraiment parce que c'est un esti de madman, là, qu'il y a eu tendance, il y a eu une passe de Derek Brunson. Il est arrivé comme un vraiment boring wrestler dans l'UFC. Ensuite, il y a eu sa passe de complet madman où il courait après ses adversaires, puis soit il est knocké en une minute ou il se faisait knocker en une minute. Puis là, on a vraiment la troisième évolution de Derek Brunson où il est de plus en plus actif, avec ses mains, de plus en plus confiant en sa boxe. Puis ça rend sa lutte encore meilleure parce que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il va faire vraiment. Parce que Derek Brunson peut aisément, d'après moi, arriver dans ce combat-là, puis juste lander plus de volume, puis dealer avec Darren Till. Il va avoir plus de reach que Darren Till. C'est pas un gars qui se bat comme un Darren Till qui est vraiment là, un sniper at range. Mais écoute, tu sais, l'UFC compile les stats de significant strikes lancés par minute. Puis quelqu'un qui est un volume striker va être à 5-6 en montant. Quelqu'un qui est un striker avec un output normal va être à 3.5 jusqu'à 4. Brunson est à 3.46. Ce qui fait de lui quelqu'un bien dans la moyenne. Là, pas quelqu'un qui a un gros output plus qu'il faut. Quelqu'un bien dans la moyenne. Darren Till est à 2.27. Darren Till, 100% de ce qu'il fait, c'est être mobile, sautiller sur ses pieds at range, lancer un jab une fois de temps en temps, lancer une grosse main gauche qui pense qu'il va knocker quelqu'un avec ça à chaque fois qu'il lance, mais il lance 0.4 fois par round. Puis s'il n'est pas là, ben il essaie de grapple dans le clinch, là. Il essaie de lutter dans le clinch puis d'être lourd sur son adversaire parce qu'il a tendance à être le plus gros combattant dans pas mal tous les combats qu'il a eu dans sa carrière, était le plus gros combattant. Puis ça, c'est un des premiers combats où il ne sera pas. Il va être plus petit que Brunson. Il va avoir moins de reach que Brunson. Puis tabarnouche, Derek Brunson, il a pas peur d'avancer, de mettre ses mains ensemble. Même contre Anderson Silva, il a pas eu peur de faire ça. Puis il a perdu cette décision-là, mais il a mérité absolument. Puis ça fait plusieurs années de ça. Va mixer des takedowns avec tout ça. Honnêtement, j'ai checké les odds, puis Brunson est underdog dans ce combat-là. Ça, c'est à quel point Darren Till est comme une réputation qui fait qu'il est favorisé souvent dans les odds, mais je pense pas qu'il mérite dans ce combat-là, loin de là. J'ai l'impression que Derek Brunson va pas avoir peur de lui, va littéralement avancer, mettre des combinaisons ensemble et puis aller chercher des takedowns avec ça, passer beaucoup de temps sur le top. Ça va probablement pas être le main event le plus fun de l'histoire. Là. Ça risque d'être des genres de rondes où il y a un pattern très répétitif des mêmes affaires qui continuent toujours à arriver, mais honnêtement, Derek Brunson, il pourrait perdre. Je ne peux pas dire je ne vois pas comment il peut perdre ce combat-là parce que Darren Till, s'il décide de lancer sa bonne main gauche, il a un bon timing, il faut lui donner. Le gars, il est bon at range. C'est un très, très bon sniper. Il lance juste pas assez, ce qui fait que des fois, les gars finissent, arrêtent un peu de le respecter, ils font juste avancer puis mettre des punches together. Puis juste ça, souvent, c'est la chose que tu as besoin de faire. T'sais, même Tyron Woodley n'a pas eu peur d'être agressif contre Darren Till tellement Darren Till ne lance pas. Ça veut dire que ça va être dur pour lui, mais s'il lance la main gauche parfaite contre son adversaire Brunson, qui, comme on l'a dit, s'est déjà fait finir auparavant, donc ça pourrait arriver, mais ça va prendre un KO dans les deux premiers rounds pour Till. Je pense que plus ça avance, moins il y a de chances que ça arrive, puis je pense pas que ça va arriver, point final à la ligne. J'ai Derek Brunson par décision dans ce combat-là, puis ça va conclure mes analyses et positions complètes pour la carte de l'UFC Vegas 36. Laissez-moi un like si ça va apprécier, laissez-moi un commentaire dans les commentaires pour me faire part de vos prédictions sur les combats des deux gars, là, de Jourdain, de Barrio. Comment vous pensez que ça va finir? C'est quoi le setup pour vous? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Le main event ou n'importe quel autre combo aussi, ça me dérange pas, mais je sais que c'est Jourdain et Barrio qui vous intéressent ici. Donc, on se lance de ça dans les commentaires. Abonnez-vous à MMA Talk aussi sur Facebook, YouTube, toute la patente, et puis on se parle une prochaine fois. Ciao!